Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Et au grenier, il ouvre des coffres, cherche des lettres, mais il trouve que des lettres sans importance. Durant plusieurs jours, il cherche et ne trouve rien. Puis il se dit qu'elle a reçu une lettre compromettante. Elle a dû le détruire. C'est normal. Alors il arrête de chercher, mais reste inquiet. À sa femme, ton fils. Elle lui dit irritée, c'est le tien aussi. Tu vois bien qu'il est de toi. Il n'est pas noir. Il lui dit, ça ne me dit pas qu'il est de moi. Qui me dit qu'il est de moi? Elle lui répond, moi. Il lui dit, tu en es si sûr que ça? Il lui dit, oui. Il lui dit, pourquoi? Si t'es à cette époque, tu avais un amant, tu ne pourrais pas en être si sûr. Elle lui dit, j'ai toujours resté fidèle. Il lui dit, alors, d'où vient-il celui-là? Du Saint-Esprit? Elle en a marre. Elle lui dit, idiot! De toi, tu reçois une lettre anonyme et voilà, tu soupçonnes. Elle quitte le salon. Il se tait, mais observe. ne dit rien à son fils, mais reste froid avec lui. Il se dit, et dire qui va hériter de moi, celui-là, c'est peut-être un coucou. Et dire que j'ai qu'un fils, ou plutôt que lui, je ne peux faire autrement que de m'en contenter. Il ne lui vient même pas à l'esprit, à l'idée qu'il pourrait faire un enfant, un fils, et qu'il serait vraiment sûr d'en être le père. Lui, Gilbert, ne se rend compte de rien. Charlotte, elle, est triste et se dit que son mari la traite comme une femme volage. Elle qui est toujours restée fidèle, elle se dit « Quoi que l'on fasse, les femmes sont toujours traitées de la même façon. » C'est long pour créer un empire, et c'est long pour le donner à un autre. Il en faut des stratèges, des vols, des crimes, des échanges. La dernière ligne droite est toujours la plus longue, difficile à faire. Il faut resserrer et même éliminer le roi pour en mettre un autre. Et un roi, ça s'élimine par comme ça, et puis il faut que celui qui va le remplacer soit capable de le faire. Et les connaissances qu'il faut, car il faut éviter au minimum la transition. Entre deux pouvoirs, c'est là où c'est dangereux. On peut prendre la place vacante. C'est pour cela qu'il faut de suite mettre sur le trône quelqu'un. Donc, il faut bien calculer son coup avant d'éliminer le roi. C'est la première fois que l'on agit de cette façon. Les autres fois, l'élu mourait de mort naturelle et l'on mettait l'autre, celui de son sang. Mais là, à cause de la catastrophe qui a tué tous les personnages de cette pièce, il a bien fallu faire avec ce qu'il restait, c'est-à-dire peu de choses. Seulement, un petit fœtus, c'est-à-dire de l'ADN, et avec de l'ADN. Le monde est dans un état déplorable. Il faut faire quelque chose. Et pour faire quelque chose, il faut un chef, c'est-à-dire quelqu'un qui est le fluide qu'il faut et qui soit au-dessus des autres, pour ce qui est, pour ses origines, pour ce qu'il représente. Et ce chef, cet être qui doit être le centre de tout, doit être éduqué pour avoir droit au pouvoir, à la puissance. Il faut l'éduquer. C'est long, très long. Et la nuit, La nuit glaciale avance à grands pas. Sous terre, il n'y a que l'élu qui peut l'arrêter. Et si on ne l'arrête pas, ce sera la fin. Voilà qu'en pense le vieil homme dans son bureau. Il se dit, les signes sont mauvais, il faut agir le plus vite que l'on peut. Les jours passent. Monsieur de Janju est chez lui, à Lyon. Il fait nuit, il est à son bureau et essaye d'écrire. Il a des difficultés à écrire. Il cherche à écrire une histoire d'amour, mais il n'y arrive pas. Il n'essaie pas d'écrire les scènes avec des sentiments et tout. Il ne sait plus écrire, il se sent vieux, fatigué. Oui, il ne sait plus écrire, il se sent très vieux et fatigué. Tout ce que j'écris, c'est très mauvais. Je devrais laisser tomber tout ça. Pourquoi est-ce que je continue ? Personne ne m'oblige. Ce doit être de l'orgueil. Cette saleté qui vous force à faire des tas de choses dont on n'a pas besoin. Je ferais mieux de dormir. On est bien qu'au lit. D'ailleurs, en m'éveillant, j'ai toujours le cafard. Je ne veux pas me réveiller. Je pourrais, si je voulais, rester au lit une journée entière. Pourquoi est-ce que je ne le fais pas? C'est idiot. Mais j'ai peur de ne pouvoir jamais vouloir me lever comme ma mère qui s'est laissée glisser dans une certaine torpeur et s'est laissée mourir. C'est tout aussi bien que de mourir d'autre chose. Mourir. L'avenir de l'homme. Et en plus, le grand mystère. Pour le mystère, savoir s'il y a un paradis ou non. Mais aussi savoir si on va quitter ce monde. Comment va les quitter? La souffrance sera-t-elle dure? Puis savoir si son corps va devenir pourriture et va être mangé par des vers et autres bêtes. Puis disparaître en poussière. T'avais tout de même quelque chose. J'aimerais mieux, c'est qu'ils partent en poussière, de suite, au lieu de devenir pourriture. Et puis, perdre la vie, c'est perdre le monde où nous vivons, et perdre les gens que nous vivons, que nous aimons. Quel déchirement. C'est horrible de perdre tout ça, de plus voir, entendre, sentir. Adieu le beau voyage, corps délicieux, peau douce, rien, le néant. On a beau se dire que la mort est indispensable aux espèces, ça fait tout de même quelque chose. On a beau vieillir, un corps laid et mal, en point, cela vous fait mal de le quitter. Et puis votre cerveau, votre esprit, ne plus penser. Quelle horreur de n'être plus rien. Que votre corps meure. Mais que le cerveau reste. On vieillit sans s'en rendre compte. Comme ça, on ne s'en rend pas compte à cause du cerveau qui vieillit moins vite. On voit qu'on en a vieilli par le regard des autres. Lorsqu'on ne vous dit plus « mon petit, mon chéri, mon grand, mon jeune homme, puis monsieur ». Lorsqu'on m'a dit à 25 ou 27 ans « monsieur » pour la première fois, ça m'a fait une drôle de chose. Je sortais du cinéma Le Concorde. Je venais de voir Mort à Venise. Et je vous jure que c'est vrai. Et des jeunes sont venus. Ils m'ont demandé, monsieur, est-ce que c'est un film de cul? Je me suis dit, voilà, je ne suis plus un jeune. Mais un adulte, un homme, quelle tristesse. D'ailleurs, ce monde est triste, très triste, à en mourir. Et pourtant, on y tient. Malgré qu'au fil des jours, il vous enlève tout ce que vous aimez. Voir vieillir des gens que l'on aime, c'est aussi très triste. Triste à en mourir. Je rencontre une personne, une femme délicate. Je la retrouve plus tard. Une personne lourde et grossière, sans grâce. L'on vous dit que c'est elle que vous avez aimée. Mais celle que vous avez aimée n'est plus. Elle est morte. À jamais. Jamais. C'est terrible, ce mot. À jamais. Jamais. Plus jamais. C'est fini. Détruit. Quelle horreur. Moi, je ne reverrai plus les hautes bords. Charles Gallien et tant d'autres qui ont fait partie de ma vie, ceux de ma jeunesse, ne sont plus. Je me souviens, c'est qu'une fois, il y a très longtemps, j'étais au lycée, j'avais 13 ans, un garçon très beau de ma classe, un jour, que j'avais récité une poésie, m'attrape par le bras et me dit « J'aime ta façon de réciter. » Moi, trop intimidé, et peut-être aussi. Comme ça, par bêtise, je n'ai pas répondu à sa gentillesse. Il était très beau et doux. Plus tard, il est venu voir ma mère. J'étais absent. Elle parlait de moi à ma mère. Il voulait me revoir. Lorsque ma mère me parlait de ça, j'ai eu honte. Je n'ai pas cherché à le revoir. Plus tard, j'ai appris qu'il se mariait. Bien plus tard, peut-être 37 ans plus tard, je me suis rappelé de lui et j'ai eu des remords de ne pas pu répondre à son amitié. Dans un moment de cafard, je me disais que personne ne m'avait aimé. Et tout d'un coup, j'ai pensé à lui. Je me suis dit que lui m'avait aimé, mais que je n'avais pas voulu de son amour. Il y a eu deux personnes qui m'ont vraiment aimé, qui ont eu de l'amitié pour moi. Lui et une autre personne. Je dis de l'amitié pure et vraie. Je suis passé à côté d'eux et cherché à être aimé par des gens qui ne pouvaient m'aimer. J'ai aimé Charles, mais lui ne pouvait pas m'aimer parce que j'étais déjà trop vieux. Pour lui, il m'aimait comme son fils et moi je l'ai aimé comme un fils. J'ai aimé d'autres personnes, mais elles ne m'aimaient pas. Aimer comme je l'aurais voulu. Non, il n'y a eu que deux personnes. Et je suis passé à côté de l'amitié par timidité ou parce que j'étais pris dans autre chose. On fréquente souvent des gens qui ne vous plaisent pas vraiment. Et ceux qui vous plairaient, vous ne les rencontrez pas. Ou vous passez à côté d'eux sans vraiment les voir. C'est la vie. J'écris tout ça parce que je suis coincé. Je ne sais plus ce que j'ai écrit. À force d'écrire, je vais peut-être retrouver le fil de ce que je racontais. Il le faudra bien. Le temps passe et rien ne vient. C'est dur de créer, d'écrire. Des fois, l'histoire s'efface. Il n'a rien à dire. Alors il faut attendre. Attendre quoi? On ne sait pas. Quelque chose de nouveau. Quelque chose qui ferait remettre en route l'histoire. Mais quoi? Monsieur de Jean-Ju s'arrête d'écrire. Il a assez écrit pour ne rien dire. Ça ne sert à rien. Et puis, il pourrait arrêter d'écrire. Personne ne le saurait. Sauf moi. Et alors? Sauf moi? Mais ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est les autres. Les autres peuvent vous juger. Mais vous, de quel droit? Ils vous jugeraient. Bien sûr, on a sa conscience. Qu'est-ce que c'est que la conscience? Le remords? C'est qu'une chose entre moi et moi, personne d'autre. Alors si je fais quelque chose de mal et que personne ne le sait, ça n'a pas d'importance. Le mal, est-ce une chose qui est nuisible à soi ou aux autres? Si on fait le mal et que ce mal est bon pour soi, est-ce du mal? Mais pourquoi la conscience qui est en nous nous dit que c'est du mal, puisque ça nous fait du bien en soi? à soi. La conscience ne devrait pas trouver mal ce qui nous est bon, même si c'est mal. Alors, si la conscience trouve que c'est mal, ce qui nous est bon, ce qui nous est étrangère, ou plutôt, qu'elle va plus loin que nous, elle dépasse l'individu où elle se trouve. Elle va au-delà de ce que nous sommes et avons besoin pour universalité. Elle extériorise ce que nous sommes pour que nous allions au-delà de ce que nous sommes, pour universaliser ce que nous sommes et les faits et gestes et idées que nous avons. Elle nous donne la conscience d'appartenir à un monde, à une espèce. Et pour cela, elle fait comprendre ce qui est bien et mal pour nous et les autres. C'est de là que naît la morale. Ce qui prouve que la morale est une affaire d'éducation et aussi est en nous dès notre naissance. Donc un homme, même seul, peut savoir qu'il fait mal, même si personne ne le sait. Il connaît la signification du bien et du mal, même s'il vit au-delà du bien et du mal. Il le sait, sauf à des exceptions près, où des êtres perdent la conscience morale, et pour eux, il n'y a que le plaisir qui compte. Ce peut être une déformation, un manque d'une partie du cerveau, une maladie qui empêche la conscience de marcher. Et ce genre de personne est rare, et la plupart des gens, même les plus horribles, ont la conscience, mais vont au-delà. Peut-être que leur plaisir, leur désir est plus fort que tout. La preuve que la conscience est dans le cerveau, c'est que des gens qui ont eu un accident ont perdu tout sens moral et sont déséquilibrés, instables. Sans loi, sans religion, l'homme sait ce qui est le bien, qui est le mal. Mais ces lois, ces religions n'auraient pu être créées sans la conscience du bien et du mal. Lorsque l'on ment, l'on rougit et l'on hésite à dire les choses. Alors, et pourquoi? Et qu'est-ce que la conscience? Comment une chose faite de chair, de sang, d'os, etc., etc., puisse avoir, pouvoir penser, être conscient, avoir le sens moral? Qu'est-ce qui fait que nous sommes capables de réfléchir, de créer? Qu'est-ce que la pensée? On a beau dire que la nature est un assemblage de choses chimiques, ADN, etc., et qu'il y a l'évolution. Mais cela ne nous dit pas comment une chose, des choses, même de la viande qui vit, puisse réfléchir, avoir conscience, etc. Puisque nous sommes que de la chair, de la viande, avec des os. Et d'où vient la conscience, l'intelligence? On ne peut pas comprendre que la nature, on peut comprendre que la nature est faite, les cellules, l'ADN, l'évolution, mais le reste, ce que nous sommes. Et même ça marche vraiment. On a beau dire que le cerveau est un tas de nerfs, comme des fils électriques, qui marchent avec des produits chimiques, reliés à des glandes, et que tout ça n'est que physique et rien d'autre, que ça donne, mais ça ne donne pas la pensée. Ça peut apporter des ordres pour marcher, manger, dormir, boire, etc., voir, et tout, mais penser au bien, au mal, réfléchir, comment ça se fait. On a dit que c'est comme un ordinateur, mais l'ordinateur ne pense pas, il fait ce qu'on lui dit de faire, il ne réfléchit pas, il n'a pas de sens moral. Alors, le mystère est là. Peut-être sommes-nous la seule espèce vivante qui a la conscience. Alors cela ne veut pas dire que nous sommes à part les autres. Et si notre but est autre que celle de se servir des autres espèces? Et pourquoi avoir fait l'homme autre? Pour quel but? On le saura peut-être un jour. Mais dire que l'espèce humaine est une espèce comme les autres, c'est faux. Elle ne se comporte pas comme les autres. Elle a la conscience. Elle ne se comporte pas un code d'instinct. La nature ne lui suffit pas. Il lui faut créer, imaginer, aller au-delà de ce qui l'entoure. Les autres espèces se contentent de leur environnement. L'homme, non. Il veut aller au-delà, changer les choses, le transformer à son idée, à ses rêves. L'homme sublime. Les autres, non. Les autres espèces peuvent peut-être chercher à transformer leur environnement pour des choses utiles, mais elles ne subliment pas pour changer leur environnement. Il n'y a que l'être humain qui le fait. Et c'est pour ça qu'il fait des choses, qui va au-delà de ce que les autres espèces font, peuvent faire. Voilà qu'on pense, monsieur de Janjou, la nuit. La nuit est bien avancée. Pas de bruit. Seule sa lampe éclaire le bureau. Il va aller se coucher au petit matin et dormir alors que le monde se réveille. Jamais trompé. Et puis ils l'ont écrit pour te faire du mal. Ce doit être un de tes concurrents. » Maurice lui dit, « Pourquoi est-ce qu'il me parle toujours de mon fils ?» Elle lui dit, « Ils ne veulent peut-être pas qu'il prenne ta place. Ils veulent que tu le déshérites. » Maurice réfléchit et lui dit, « Tu as peut-être raison. » Maurice ne peut s'empêcher de penser à tout ça, surtout que Gilbert lui ressemble si peu, même de caractère il lui est différent. Alors, comment le savoir? Bien sûr, il peut avoir le test d'ADN, mais il paraît que ce n'est pas fiable et qu'il peut y avoir des erreurs, que ce n'est pas sûr à 100%. Alors, il se dit, les accusateurs ont bon dos. Il n'y a aucune preuve. Ils peuvent dire n'importe quoi. Il ne reçoit plus de lettres, c'est déjà pas mal. Et puis, il doit penser à autre chose. Les affaires reprennent. Il y a beaucoup de projets de villes en cause à construire, à reconstruire, à rénover. Villeurbanne, Vénissieux, Grenoble, Marseille. Certaines seront complètement à démolir et refaire. Les gens, la population de ces villes, sont à évacuer et à ramener dans leur pays d'origine pour certains. Envoie les gens dans leur pays d'origine parce qu'on a besoin de main d'œuvre là-bas. Parce que dans ces pays sous-développés, on crée des usines clés en main pour faire revenir la population chez eux et aussi pour les forcer à partir. On leur coupe leur chômage, les chômages, on détruit leur carte de séjour, on leur dit, vous avez du travail chez vous, allez-y. S'ils refusent, on les renvoie d'office. Les usines que l'on crée là-bas sont des usines agroalimentaires, de vêtements, de mécanique, etc. Les usines, on demande beaucoup, qui ont besoin de beaucoup d'emplois, de personnel, et qui coûtent cher pour la fabrication, parce que beaucoup de manutention. Dans ces pays, sans sécurité sociale, retraite, congés payés, etc. Et où le salaire est bas, beaucoup d'heures supplémentaires, ils peuvent produire un bon marché et se contenter de très peu. Ce n'est pas très cher, c'est moins cher qu'en France. puis en même temps, en les renvoyant chez eux, ça fait moins de délinquance, de chômeurs, de SDF, d'aide, etc. Plus de logements surpeuplés et de casses. C'est bon pour eux parce qu'ils retrouvent leur pays, famille, culture, habitude, religion. Ils ne sont plus des immigrés, mais des citoyens d'un pays comme les leurs. En fait, c'est ce que pensent ceux qui veulent qu'ils aillent là-bas, mais ne demandent pas aux intéressés leur avis. Parce que ceux qui les envoient dans leur pays, c'est pour les faire travailler à bas prix, pour eux. Des hautes bords, n'a trouvé sur des vieux vêtements de l'ADN. Mais est-ce des hautes bords et du ou desquels? On a mis dans des coffres métalliques un laboratoire à Paris pour voir. On connaît le groupe sanguin de Madame de Hautebeurre et sa peau. Vous vous souvenez de sa chirurgie esthétique? Pour ce qui est des autres, le père, l'oncle, Flore, Didier, Marc. Marc qui est peut-être le président, et Charles. On a leurs photos de tout le monde, leur taille. Alors, la chose est tenue secrète, car si l'Adelaine est celui de Marc, et que c'est le même que le président de la République, on saura qu'il est un drôle de type et qui est à la tête de la présidence. On risquerait de faire chanter le président. Passe au peigne fin les vêtements propres et usagés qui ont été trouvés, féminins et masculins. D'après la forme des vêtements, leur taille et goût, on sait à peu près à qui ils ont appartenu. Flore ne s'habillait pas de la même façon qu'Hélène de Hautebeurre. La moindre poussière, bout de peau, de sang, de sperme, de cheveux, poils, d'ADN est récupéré, puis marqué. Puis on passe au microscope. On regroupe la peau, le sang, l'ADN du même vêtement. L'on revitalise ces bouts avec des rayons laser X électriques et de l'oxygène, etc. Puis, on vitalise la peau, on lui met de l'ADN et du sang. Bien des éprouvettes, vivifiées avec un sperme trouvé, vivifié lui aussi. Le sang est renouvelé constamment, oxygéné. Il ne reste plus que le miracle d'un futur autobord, ou la résurrection d'un autobord, ou d'un de leurs amis, Charles, Flore, Martin. Maintenant, il faut laisser faire la nature. Monsieur de Jean-Jus, qui s'éveille de loin la maison des Hautebords, est inquiet de voir partir des mâles dans des camionnettes. Comme il n'ose pas le demander à Maurice, il va le demander à Gilbert en téléphonant chez lui de Lyon.
Pouvez-vous me renseigner sur les envois et sur ce que l'on prend? Tout ce qui est dans la maison doit rester dans la maison, Gilbert lui dit. Je vais me renseigner, merci. Gilbert se dit que peut-être c'est pour nettoyer certaines choses ou pour mettre dans le musée. Il sort de son bureau pour aller dans le bureau de son père. Appuie sur le bouton, le voyant vert s'allume. La porte s'ouvre et il entre. Son père est à son bureau et lui demande.
Tu as quelque chose à me demander?
Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti.